Ça te dirait de voir Backseat jusqu'en 2027, 2040 même? Eh ben c'est possible, mais pour ça on a besoin de toi. Backseat, c'est une émission qui tient à son indépendance, c'est pourquoi nous avons choisi de faire reposer une partie du financement de l'émission sur notre public. Chaque épisode coûte 13 000 euros, ce qui comprend toute la logistique, mais surtout les salaires de chaque personne intervenant sur l'émission. Pour pouvoir diffuser toute l'année, nous avons besoin de 30 000 euros par mois. Alors rends-toi sur KissKissBankBank, choisis l'abonnement que tu préfères et profite des contreparties que nous proposons en échange, comme le fait de voir l'émission en intégralité sur YouTube dès le vendredi matin, ou l'adhésion au Club Backseat, qui donne accès à plein d'avantages. Si chaque spectateur régulier donnait 1 euro par mois, nous pourrions produire Backseat pendant de nombreuses années. Alors rendez-vous sur KissKiss pour soutenir cette belle émission. Et tout de suite, ta VOD.
Merci les copains, ça vous dit qu'on parle de politique maintenant? Allez, c'est parti pour l'actu de la semaine.
De quoi?
Chers amis, l'actualité cette semaine, quelle actualité! On va commencer par le bilan des européennes. C'était dimanche soir, tout se passait comme prévu. Les élections européennes ont eu lieu et se sont déroulées tout au long de la journée de dimanche, après une campagne en demi-teinte qui a été assez peu suivie. Et on a eu donc ces résultats en France que je vous propose qu'on commente. Déjà pour commencer, on a le graphique qui s'affiche. Voilà, vous l'avez tous vu. Large victoire de Jordan Bardella et de la liste du Rassemblement National avec 31,36% des voix. Arrivé en deuxième position, péniblement la moitié de ce score, celui de la liste Renaissance. Derrière, c'est Place Publique qui lead à gauche avec 13,83% des voix. Puis la France Insoumise avec 9,89%, pratiquement 10% des voix. Les Républicains à 7,24% et Reconquête à 5,47%. Quels sont les enseignements? J'ai oublié les écologistes qui ont fait 5,5%. Je vous rappelle que la barre des 5% est très importante parce que c'est celle qui permet d'avoir des élus. J'ai entendu dans ton stream, Clément, que toi, tu étais particulièrement choqué par le score de Reconquête.
Non, mais c'est pour moi presque davantage. Enfin, faut pas dire ça. Mais le score de Reconquête, je le trouve fou parce que j'ai écouté. Alors là aussi, parce que je me suis infligé ça. Moi, j'ai écouté Éric Zemmour et Marion Maréchal durant la campagne. Mais alors. Reconquête, c'est un parti fasciste. Mais alors, c'est pas un parti crypto-fasciste, néo-fasciste, extrême droite. Non, c'est un parti fasciste. Ils veulent abolir le contrôle de constitutionnalité des lois. Ils veulent que les policiers aient la présomption de légitime défense et qu'ils puissent faire usage davantage de leurs armes. Marion Maréchal a dit que les auteurs de la fusillade qui a coûté la vie à deux surveillants pénitentiaires, elle a dit qu'elle aimerait qu'ils soient retrouvés morts ou vifs. Éric Zemmour a quand même... Alors, ils sont pour la remigration des délinquants ou criminels étrangers. Mais, alors, remigration, c'est le mot... Là aussi, pareil, il y en a marre, à un moment donné. Remigration, c'est le mot poli pour dire déportation.
Ouais.
Enfin, on a remplacé un mot par un autre, mais il suffit d'aller voir la définition de déportation, c'est exactement la même chose. Donc, ils veulent la déportation des criminels, délinquants, étrangers, mais pas seulement étrangers. Éric Zemmour a dit ceci. Il a dit, si vous êtes binational, donc français et algérien, par exemple, ou si vous êtes français-français, mais que vous pourriez avoir la nationalité algérienne, par exemple, parce qu'un de vos parents est algérien, mais vous ne l'avez pas demandé. Vous n'avez jamais foutu les pieds en Algérie, vous n'êtes jamais allé là-bas, vous n'avez aucun lien, mais vous pourriez la demander. Eh bien, dans ce cas-là, au premier délit, au premier crime, vous êtes déchu de la nationalité française et déporté en Algérie. Bon, donc, c'est un programme explicitement fasciste. Éric Zemmour veut l'oppression des droits des minorités par la majorité qui aurait voté pour lui. Il veut l'abolition de l'état de droit. C'est ce qui se passe quand on abolit le contrôle de constitutionnalité des lois. Il revendique la brutalité et les violences policières qu'il aimerait plus nombreuses et moins punies. C'est un programme fasciste. 5 députés Reconquête ont été élus au Parlement européen en France. La France envoie 5 fasciste au Parlement européen. Et tout cela, et je ne le dirai jamais assez, tout cela avec la complicité coupable du macronisme. Parce que, enfin, on a des offs, pas seulement des offs, il y a même un in d'une députée à Libération. On a des offs et des in des cadres de Renaissance et même des ministres de l'entourage
qui ont essayé de faire monter Reconquête.
Exactement. Qui disent, notre pari, c'est de faire monter Marion Maréchal pour espérer grappiller quelques points à Jordan Bardella. Parce que ils étaient tellement sûr de ne pas réussir à convaincre. Il se savait tellement démonétisé, décrédibilisé, inaudible, incapable de rapporter la moindre voix supplémentaire à leur liste, que leur seule stratégie pour tenter de limiter l'humiliation de l'écart qui les séparait de Jordan Bardella, c'était d'essayer de faire perdre quelques points à Jordan Bardella en faisant monter Marion Maréchal. Et ça a donné quoi ? Ça a donné notamment le duel que Valérie Ayé consent à Marion Maréchal sur CNews. Valérie Ayé n'a pas débattu avec Manon Aubry, elle n'a pas débattu avec Marine Tondelier, elle n'a pas débattu avec Raphaël Glucksmann, elle a débattu avec deux têtes de liste seulement, Jordan Bardella et la petite candidature de Marion Maréchal. Pour moi, c'est coupable, grave, le macronisme a contribué, porte une partie de la responsabilité du fait que la France ait envoyé au Parlement européen 5 députés fascistes.
Les autres, vous en pensez quoi de ces résultats ?
J'en reviens pas.
Moi, j'ai été assez impressionné par le faible score des écologistes. Marie Toussaint n'a, semble-t-il, pas réussi à imprimer pendant cette campagne. Ça tranche avec les résultats qu'avait fait Yannick Jadot en 2019, qui faisait 13%. Les écolos se voyaient en leader à gauche de cette élection, et c'est pour ça qu'ils ont refusé de faire union avec les Insoumis. Est-ce qu'ils le regrettent aujourd'hui ? Je ne sais pas, je ne pense pas. Mais quand même, ça tranche quand même singulièrement. Il faut reconnaître aussi qu'entre 2019 et 2024, la campagne et l'ambiance n'étaient pas la même. 2019, on sortait des manifs climat, on était dans un moment d'émulation un peu particulière. Il y a une surreprésentation des jeunes dans le vote aussi. Les écolos avaient le vent en poupe. Là, la pauvre Marie Toussaint, j'ai l'impression qu'elle n'arrivait pas à exister. Toute la campagne, on n'a pas arrêté de l'emmerder avec le pacte vert européen et de lui reprocher tout ce qui n'allait pas en Europe. C'est à cause des écolos. Les agriculteurs se sont mobilisés. C'est contre les mesures environnementales soi-disant, etc.
Il y a deux choses, hein, je pense, qui expliquent ça. C'est que, d'une part, l'enjeu environnemental a fortement baissé pendant toute la campagne. Était beaucoup plus, beaucoup plus fort au début de la campagne qu'à la fin. À la fin de la campagne, c'était selon le quatrième enjeu, derrière les questions d'immigration, derrière les questions de pouvoir d'achat et derrière les questions même de la protection du système de santé. Donc c'est ce qui explique ces votes assez faibles, faut dire le terme pour ELV. Et la seconde raison, c'est que ELV n'est plus propriétaire de l'enjeu environnemental. C'est-à-dire que quand tu regardes les personnes qui se disent préoccupées, dans leurs trois premières préoccupations, qui citent l'environnement, c'est le cas pour les électeurs de Manon Aubry, c'est le cas pour les électeurs de Valérie Ayé, et c'est le cas pour les électeurs de Raphaël Glucksmann. Donc bien sûr aussi ceux de Marie Toussaint, mais bon, c'est quelque chose qui est beaucoup plus largement partagé. Et donc faut pas non plus, je pense, dire que l'environnement préoccupe plus du tout les électeurs, c'est juste que ELV a fait aussi une campagne pourrie.
Sacha, toi tu as noté que le taux d'abstention était moins élevé que pour les législatives.
Oui, ça m'a beaucoup étonné. Le taux d'abstention législative au deuxième tour des législatives en 2022, il était d'à peu près 53,8%. Ce qui est plutôt conséquent. Là, on est sur un 48-49% d'abstention. Et honnêtement, je pensais que le taux d'abstention serait équivalent à celui de 2019 et qu'on resterait sur cette lancée-là. Et je n'analyse pas le fait que que les gens se soient déplacés massivement, enfin plus massivement en tout cas pour cette élection qui a priori est moins nationale que pour une élection des législatives.
Ben, elle l'était un petit peu. Tu vois, c'était un peu une élection de mi-mandat aussi, je pense.
Oui, c'est vrai. Bah, c'était une élection sanction pour Macron, assez clairement. On reparlera de la dissolution tout à l'heure. Mais on a aussi un graphique intéressant, c'est la répartition en nombre de sièges du Parlement européen. C'est toujours intéressant aussi d'avoir ça en tête. Ça permet aussi de regarder différemment les résultats, puisque ça montre que, vous avez les groupes au Parlement européen. Le groupe qui remporte vraiment ces élections européennes, c'est le PPE. Mmh. C'est la droite européenne, c'est la droite traditionnelle. C'est l'équivalent des Républicains en France. C'est François-Xavier Bellamy qui siège au sein du PPE. Nous, en France, on n'a pas du tout cette représentation-là. On n'a pas cette dynamique européenne. Nous, on a une surreprésentation de l'extrême droite à 40% et les Républicains qui font péniblement 7% comme à la présidentielle. Pas comme à la présidentielle, pardon, mieux qu'à la présidentielle.
Ouais, mieux qu'à la présidentielle. Je pense que c'est quand même un... Quoi qu'il en soit, l'extrême droite s'implante durablement au sein des institutions européennes.
Elle progresse un peu.
Elle progresse un peu, mais...
Moins que ce qu'on avait prédit, honnêtement. Enfin, moi, j'avais l'impression que tout le monde prédisait une vague d'extrême droite sur l'Europe.
Oui, mais bon, il y a quand même...
Je ne dis pas que ce n'est pas inquiétant. Hein.
Oui, bien sûr, mais moi, je pense que c'est inquiétant parce qu'on voit que c'est doucement mais sûrement, hein, c'est ce qu'on dit. On voit que quand même Fratelli d'Italia, ou le parti de Giorgia Meloni, qui a fait quand même un score remarquable, hein, qui c'est un peu inquiétant. On aurait pu espérer qu'après toutes les mesures qu'elle a prises depuis qu'elle est à la tête du pays, présidente du Conseil italien, on aurait pu espérer qu'il y avait peut-être un vote sanction qui allait se mettre en place et que les Italiens et Italiennes allaient se réveiller un peu. Hélas, non. On voit aussi les résultats qu'a fait Vox en Espagne, pourtant un pays relativement progressiste. Si on ajoute à ça qu'à partir du 1er juillet, c'est la Hongrie de Viktor Orban qui va présider le Conseil de l'Union européenne, ça pique. Bref, non, je pense qu'il faut... Il faut mesurer quand même l'ampleur de la situation. On a une extrême droite qui s'implante de manière durable dans toutes les institutions européennes et c'est particulièrement inquiétant. On a une extrême droite qui d'ailleurs surfe sur un anti-européanisme qui est aussi particulièrement inquiétant et qui pour autant arrive à pousser les portes du pouvoir des institutions européennes. Je m'interroge sur la suite. Et sur aussi l'avenir du projet européen en tant que tel, vraiment.
En Pologne et en Hongrie, l'extrême droite a reculé, on dit dans le chat. Intéressant. Intéressant, c'était pas attendu.
Sur les élections européennes, oui. En Pologne, ça pouvait s'attendre parce que les dernières élections nationales ont fait sortir l'extrême droite. Donc, c'est un mouvement qui est plutôt cohérent avec ce qui s'est passé l'année dernière. Et c'est plutôt rassurant, effectivement. Mais ça reste, pour moi, ça reste alarmant. Vraiment très alarmant.
Malek ?
En Allemagne, l'AfD, l'extrême droite allemande, a gagné 6 sièges par rapport à 2019.
Tout à fait.
Mais c'est beaucoup moins que ce qui a été prévu il y a encore quelques mois. Leur envolée a été... ça s'est explosé en plein vol quand les médias allemands ont révélé le plan de remigration, de déportation de 4 millions d'Allemands que préparait l'AFD. Et rappelons que l'état-major de l'AFD était très très proche, il y a encore quelques semaines de cela, de Marine Le Pen. Moi, je veux qu'on parle un peu du score de Manon Aubry, parce qu'elle a, dans les sondages, plafonné à 7%. Jusqu'à quelques jours avant le scrutin, pour finalement la retrouver à presque 10. Moi, il y a un truc qui m'a un peu chagriné sur cette élection européenne, c'est qu'on n'a pas du tout parlé Europe en réalité.
Ouais, c'est clair.
C'est qu'on n'a pas parlé le score des Verts, le score de Marie Toussaint. Il y avait une aubaine pour Marie Toussaint. Elle aurait pu parler d'une autre écologie, d'une écologie populaire. Elle aurait pu sortir un peu du logiciel des Verts depuis quelques années qui font qu'ils arrivent à ce plafond de verre-là. Elle a décidé de jouer un jeu. Et c'est un truc que j'entends beaucoup d'ailleurs chez les politiques et ça commence vraiment à me saouler. Oui, moi, je veux occuper l'espace de Mélenchon à Macron. On en a assez de ça. Finalement, vous savez pas où vous êtes. Vous voulez occuper un espace.
Qui ça a dit ça?
OPS, c'est un discours qui est tenu souvent. Ouais. C'est un discours aussi qui est tenu chez les Verts. On veut occuper l'espace de Mélenchon à Macron. Au final, on sait pas où est-ce que vous êtes, les gars. On sait pas ce que vous racontez. La liste de Marie Toussaint, il y avait des personnalités que je connais bien de la société civile, type Priscilla Ludowski, mais il y avait aussi des personnes sur cette liste qui auraient très bien pu se retrouver sur la liste de Valérie Ayé. Donc en fait, ça voulait rien dire et le score s'explique comme ça. Renaissance a beaucoup tapé sur LFI, beaucoup plus que Bardella, en vampirisant la liste LFI, notamment sur la question du génocide en Palestine. Et tout bizarrement, on n'en parle plus dans les médias depuis dimanche. C'est encore une occasion, parce qu'il n'en manque jamais de rappeler qu'il faut un cessez-le-feu en Palestine. On a cherché à vampiriser comme ça, à tout prix, la liste LFI, parce qu'il y avait Rima Hassan, entre autres, mais pas que, mais surtout parce qu'en réalité, c'est la seule liste qui s'est plus ou moins positionnée clairement en disant qu'il y avait un génocide en Palestine. Et au final, le scrutin a parlé. Et au final, on les prédisait à 7 et ils se sont retrouvés à 10. Mais voilà, ce positionnement de Renaissance, de vouloir taper beaucoup plus sur LFI que sur Bardella, je pense que ça devrait tous nous inquiéter un petit peu.
On verra la suite au Parlement européen qui devrait se réunir assez rapidement. Je suppose qu'Ursula von der Leyen va être réélue puisque la coalition qu'il avait portée à la tête de la Commission européenne, PPE, Sociaux-démocrates et Renew, devrait être reconduite, je le suppose. En tout cas, les équilibres le permettent. Donc, on verra, on suivra ça. Non, surtout ce qui s'est passé, la vraie déflagration politique dimanche, elle est arrivée moins d'une heure après l'annonce des résultats. Le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé dissoudre l'Assemblée nationale. Une dissolution donc qui intervient de manière assez surprenante, déjouant pas mal de pronostics. Une dissolution qui provoque l'organisation d'élections législatives qui se tiendront les 30 juin et 7 juillet prochains, partout en France.
À quoi il joue Emmanuel Macron? Pourquoi il a pris cette décision? Moi, j'ai eu du mal à la comprendre, sa décision. Moi, j'estime qu'il n'avait pas besoin de dissoudre. J'estime qu'il pouvait continuer à gouverner avec une majorité relative. Il l'a fait depuis 2 ans. Ça l'empêche pas de prendre des décrets, ça l'empêche pas de faire passer des lois. Il a réussi à faire passer des lois. Alors certes, c'est un peu difficile, il faut travailler, mais c'est faisable. Je comprends pas. Il s'en est justifié dans une conférence de presse qu'il a donnée mercredi, dans laquelle il a expliqué que... Je le cite, plus de 50% des électeurs ont voté pour les extrêmes, puisqu'il met la France Insoumise dans le même panier que le Rassemblement National, et que donc c'était un signal clair contre sa politique. Je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec lui, je suis d'accord avec toi mon vieux, hein. Tu t'es pris une tôle aux élections. C'est des élections intermédiaires. Le pouvoir en place se prend toujours une tôle aux élections intermédiaires, ouais. C'est normal. Ça fait partie de la vie politique de se prendre une tôle aux élections intermédiaires. C'est pas sa première tôle électorale en plus. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'il a dissolu, pourquoi il a dissolu maintenant et pourquoi il a pas dissolu à l'époque de la réforme des retraites. Je n'arrive pas à le comprendre.
On dit il a dissolu ou il a dissolu?
Il a dissolvé.
J'ai du mal aussi.
J'en sais rien, j'y arrive, personne, les Français n'y arrivent pas. Antoine, t'en penses quoi toi?
Bah, je pense que c'est aussi un pouvoir qui pense que la politique c'est juste de faire des coups.
C'était le nouveau coup de communication.
Entre des horloges.
Et je pense aussi qu'il misait sur deux choses. La première, c'était sur l'effet de sidération, de faire cette dissolution au moment où on voit le score du Rassemblement National qui est aussi important. Et justement, de encore une fois rejouer le jeu de c'est moi ou le chaos.
Ah, il a pensé ça comme une séquence.
Je pense que c'était ça. Et la deuxième chose, c'est de miser sur le fait que la gauche serait incapable de s'allier. Et que donc il y aurait finalement des seconds tours aux législatives entre Renaissance et le Rassemblement National, et que les électeurs de gauche, encore en se pinçant le nez, iraient revoter pour Renaissance, pour refaire barrage au Rassemblement National.
Est-ce que vous êtes d'accord avec Macron qui était convaincu qu'il allait se prendre une motion de censure à l'automne prochain?
C'était pas écrit ça.
Mais non, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je vous pose la question.
Non, c'était que dans sa tête. Je t'avoue que j'arrive toujours pas à expliquer le fait aussi qu'il l'ait fait en tout petit comité sans prévenir, par exemple, son premier ministre. C'est ce que nous donne un papier, c'est ce que nous dit un papier du Monde.
Ouais.
Je pense que ça dit tout, c'est qu'en réalité, il a pris une décision à un tout petit cercle qui lui a un petit peu bourriné la tête. Je vois, il y a Bruno Roger Petit qui est cité dans le chat. Bruno Roger Petit, donc, qui est ancien journaliste, conseiller mémoire d'Emmanuel Macron. C'est ce même mec qui a opéré cette petite stratégie de la triangulation avec l'extrême droite, qui faisait des petits déjeuners avec Marion Maréchal Le Pen il y a quelques années de ça. Et voilà, je t'avoue que je n'arrive pas à comprendre. J'essaye de me dire, il y a cette volonté de d'Emmanuel Macron, cette obsession de vouloir rentrer dans l'histoire. Il y a un peu de ça. Il y a ce truc de oui, mais peut-être qu'en 3 semaines, je vais renverser la table et je vais en ressortir vainqueur. Peut-être qu'il y a de ça.
Mais là, il risque de rentrer dans l'histoire.
Il va rentrer dans l'histoire, c'est sûr. On va s'en souvenir.
Ouais, ouais. Moi, je pense qu'il y a quand même... Alors, je suis d'accord avec cette idée, c'est soit moi, soit le chaos. Mais de toute façon, ça, c'est quelque chose qui joue depuis un certain temps. Hein. Il y a qu'en 2017 qu'il faisait une candidature à peu près digne de ce nom avec une proposition qui avait le mérite au moins d'être un peu novatrice dans le paysage politique français. Mais depuis 2022, on est clairement sûr, de toute façon, c'est Le Pen ou c'est moi, donc je vais pas faire d'efforts, je vais pas faire campagne, voilà. Je vais vous dire que ça va être l'enfer et on va encore une fois convoquer des affects négatifs pour vous faire flipper, la peur, le ressentiment, et puis après derrière on vous dira bah de toute façon c'est ça ou c'est le chaos, effectivement. Mais moi j'ai une autre hypothèse. Théorie, ouais. Ouais, il en a plein le cul, genre il en a marre. Et il en a marre, il veut arrêter.
Mais pourquoi?
Mais parce que...
Il a nommé Attal il y a 2 jours.
Mais je sais pas. Je me dis... Alors, et c'est une stratégie quand même assez lâche, mais je serais absolument pas surprise de cette stratégie-là. Parce que finalement, c'est en train de barrer en couille comme pas possible dans le monde. Il est très très mauvais en géopolitique, on l'a bien vu. Hein, voilà. Il n'arrive pas à prendre les bonnes décisions. Il a essayé d'aller murmurer à l'oreille de Poutine, mais bon, la table faisait 650 mètres de long, donc du coup, l'autre ne l'a pas entendu et ça l'a encore plus vénère. Biden, la moitié sourd, il sait pas qui c'est, il s'en bat les couilles tout autant. Monsieur, cette espèce d'image qu'il voulait... avoir sur la scène internationale, il n'arrive pas du tout à l'avoir. Au sein de l'Union européenne, il n'est plus l'un des dirigeants moteurs de l'Union européenne, ça ne fonctionne pas. En interne, enfin, sur le plan national, tout le monde le déteste. Mais genre, tout le monde le déteste.
Pourquoi se tirer une balle dans le pied comme ça?
Bah, écoute, je ne sais pas. Je me dis, au moins, là, c'est acquis. Il y aura une cohabitation potentiel. Si ça marche, il a plus rien à foutre. Et il y a quand même, après, je sais pas, est-ce que vraiment il est dans la sauce au point où il se dit j'en peux plus, j'en ai marre? Ou est-ce que c'est encore une fois une façon pour lui de ne pas se saisir d'un certain nombre de sujets? Et on parle là encore, il y a des sujets qui sont très très chauds sur la table. Je veux dire, il y avait des discussions au Parlement sur des sujets très importants. Il y avait la fin de vie, il y avait tout un tas de projets de loi qui étaient en cours et qui ont été totalement arrêtés du fait de cette dissolution surprise. Il y a aussi, et il faut encore le rappeler, merci Malek, et je voulais le dire, le fait qu'on ne parle plus du tout de Gaza, c'est-à-dire que cette annonce de dissolution a totalement invisibilisé un certain nombre de sujets, dont les élections européennes en soi. Parce qu'il était 20h58 quand il a annoncé cette dissolution. Les gens étaient encore en train de dépouiller dans les bureaux de vote, hein, concrètement. Donc on a totalement invisibilisé les questions européennes. On a invisibilisé aussi ce qui est en train de se passer à Gaza. Parce que là, tu regardes, il n'y a plus aucun média qui est en train d'en parler. Il y a eu vite fait des articles quand il y a eu la résolution au sein de l'ONU qui a été adoptée avant-hier. Mais c'est tout. La question de la reconnaissance de l'État de Palestine, du coup, est complètement renvoyée aux oubliettes. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'urgence. De toute façon, Macron ne voulait pas le faire. Donc ça l'arrange bien que ce soit pas maintenant. Et voilà, moi je me dis, est-ce que c'est stratégique pour faire encore un coup de com'? C'est probable. Est-ce que c'était ingouvernable? Je ne pense pas non plus, et en ça, je te rejoins. Je suis très surprise. Il y aurait pu avoir un remaniement. Ça aurait pu s'entendre. Il aurait pu aussi décider de rectifier le tir aussi sur, j'en sais rien moi, le parti, et changer la tête du parti, revoir un peu la stratégie pour les prochaines élections. Mais dissoudre au lendemain d'une élection européenne, ça n'a aucun sens.
Attal aurait proposé sa démission, mais...
Non, je suis complètement d'accord. Clément, est-ce que Emmanuel Macron pense sincèrement pouvoir gagner ces élections législatives anticipées?
Alors... Il y a deux choses. Pour je réponds à ta question dans une seconde. D'abord, pour revenir juste avant. Okay. Moi, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. J'ajoute deux éléments supplémentaires. Le premier, il faut pas oublier qu'Emmanuel Macron, pendant 5 ans, s'est enivré de son pouvoir absolu. Et Emmanuel Macron est quelqu'un qui n'a pas de culture parlementaire.
Non,
on le sait, ça remonte au moment où il était ministre de l'économie et des finances de François Hollande. On se souvient de la gifle qui a été la loi Macron qu'il a dû faire passer au 49-3, alors même qu'il avait passé 2 mois à négocier avec le Parlement.
Parce qu'il était nul.
C'est vrai.
Oui, à l'intérieur, à l'époque, je m'en souviens.
Les frondeurs, etc. Et lui, il en a conçu une sorte de d'offense personnelle. Et depuis ce jour-là, Emmanuel Macron a une forme de détestation du Parlement. Il est lui-même un président antiparlementariste. Ça n'est pas le moindre des paradoxes qu'il accuse sans cesse LFI d'être antiparlementaire. On peut leur faire plein de critiques sur le style, mais pas celui précisément d'être antiparlementaire. Lui, il l'est. C'est quand même, je rappelle, puisque ça a été un peu oublié, Emmanuel Macron, le seul président de l'histoire qui, dans une réforme constitutionnelle avortée, proposait de restreindre le droit d'amendement des députés, c'est-à-dire le droit pour les députés de faire la loi, hein, tout simplement. Bon. Donc, Emmanuel Macron s'est enivré pendant 5 ans d'un pouvoir absolu. Et depuis 2022, il n'a pas su trouver la clé, parce que ça n'est pas un homme de négociation. Ça n'est pas un homme du jeu parlementaire. Il n'a pas su trouver la clé de cette majorité relative qu'il a à l'Assemblée nationale. Et il ne cesse depuis 2 ans de tenter de faire des coups. Alors, d'abord, c'était le Conseil national de la Refondation, dont lui-même ne savait pas. Voilà, il s'est dit, on va faire ça, ça va marcher. Ça n'a pas marché, évidemment. Ça existe déjà, ça s'appelle le Parlement. Ensuite, c'était les grandes rencontres de Saint-Denis avec les chefs de parti. Bon, ça n'a pas marché. Ben, pour une raison simple, c'est que ça s'appelle le Parlement. Mais lui ne veut pas aller au Parlement. Et donc, je pense qu'il ne faut pas minorer le fait que pour Emmanuel Macron, son entourage, mais avant tout Emmanuel Macron, et on a un off de Brigitte Macron là-dessus, qui, je ne sais plus à quelle occasion, a confié à un journaliste, je crois qu'au moment de la réforme des retraites, je crois, elle a dit, on ne va pas pouvoir tenir comme ça 4 ans. On ne va pas pouvoir tenir comme ça. Et le tenir comme ça, c'est vraiment ce contexte politique où ils doivent négocier, où ils n'ont plus les clés absolues du pouvoir, qui, je crois, leur est insupportable. Et donc, oui, ça pouvait tenir bon an, mal an, deux décrets en 49-3, ils pouvaient tenir comme ça avec 2 ans, où ils étaient 1 an et demi, 2 ans à la fin, où ils étaient sans doute paralysés. Mais bon, Chirac l'a fait avant eux, quoi, un quinquennat où tu ne fais pas grand-chose. Donc, ça pouvait tenir encore. Et là, je pense que ça leur était juste insupportable. Par ailleurs, il y a ce truc d'Emmanuel Macron de vouloir être le maître des horloges, de ne jamais vouloir subir, de faire des coups, en effet, et de les réussir parfois. Enfin, le grand débat national au moment des Gilets jaunes, c'est un coup qui était une belle fourberie, mais qui a merveilleusement bien marché pour reprendre en main une séquence qui s'annonçait désastreuse pour lui. Et donc, je pense qu'il y a toute cette logique-là, plus le fait de se dire, et ça a bien marché, qu'il allait nous voler sa défaite. Parce que c'est ce qui s'est passé, Léa, c'est ce que tu disais à juste titre, il nous a volé sa défaite. À 20h58, on ne commente plus la défaite d'Emmanuel Macron, on commente sa décision. Donc je pense que tout ça se conjugue. Et avec, et c'était ta question Jean, et j'y réponds, avec cette croyance qu'il a de se dire « je peux gagner ». Je pense qu'il dissout, et Bruno Roger Petit et les génies de l'Élysée, qui, c'est une antiphrase évidemment, qui se disent vraiment « on peut gagner ». Ils parient, mais en fait, ils font un pari qui, dimanche soir à 20h45, ne paraît pas déconnant. Ils font le pari que la gauche ne réussira jamais à s'allier. Et en vrai, dimanche soir à 20h45, quand on se retéléporte dans le temps, c'était pas absurde. Enfin, je veux dire, Glucksmann et Aubry se sont agonis d'injures et d'anathèmes pendant toute la campagne européenne. La question palestinienne a laissé des failles béantes et des fractures béantes à gauche. Et donc, on pouvait réellement craindre que la gauche ne s'allierait pas. Si la gauche ne s'allie pas, et je le dis d'autant plus que l'alliance à gauche n'est pas faite, si la gauche ne s'allie pas...
Attends. Point mercato, je crois, sur l'alliance à gauche.
Alors, breaking news, priorité en direct sur Backseat. Un communiqué de presse vient de sortir de la part du Front Populaire. Je cite, une page d'histoire de France s'écrit avec le nouveau Front Populaire. Avec un programme de gouvernement et des candidatures uniques dans les circonscriptions de France, les forces politiques qui ont constitué le nouveau Front Populaire donnent rendez-vous aux Françaises et aux Français les 30 juin et 7 juillet prochains. Une immense attente d'union s'est exprimée. Elle est scellée. À partir d'aujourd'hui, partout en France, nous œuvrons à élargir ce rassemblement avec toutes celles et ceux, Françaises et Français, associations, syndicats, partis politiques, personnalités engagées dans le débat public, qui partagent nos idées et nos orientations. Nous aurons des candidates et des candidats communs capables de représenter la société française. Nous avons œuvré à un programme politique de rupture avec une déclinaison pour les 100 premiers jours de mandat. Des propositions concrètes et réalistes pour que la vie des Françaises et des Français change vraiment. Désormais, l'arrivée du Rassemblement National au pouvoir n'est plus une fatalité. Soutenez l'émission Backseat en faisant des dons sur sa page. Il y a donc un accord qui a été trouvé entre les organisations de gauche dans ce Front Populaire. Ça tombe bien. J'allais y venir, c'était ma question suivante. C'est hyper bien fait cette émission. J'allais y venir, effectivement. À gauche, un espoir est né lundi matin avec l'annonce sur la matinale de France Inter par François Ruffin d'une idée de nom de nouveau rassemblement qui s'appellerait Front Populaire pour prendre la suite de la NUPES. La NUPES qui était issue des résultats de la présidentielle. Là, le Front Populaire sera issu des résultats des européennes en partie. J'ai un milliard de questions évidemment sur ce qui est en train de se passer à gauche, sur ce qui a été signé ce soir. Je meurs dans envie de connaître le détail de ce qu'a écrit dans ce putain de programme commun, parce que j'ai beaucoup de questions et j'ai un milliard de questions sur les circonscriptions. Qui sont les personnes qui sont maintenues? Est-ce qu'Adrien Quatennens est candidat, etc. Ça fait partie des questions. Ça fait partie des questions que j'ai envie de poser et pour l'instant, on n'a pas exactement la réponse. On peut revenir quand même sur ce qui s'est passé lundi matin. Est-ce que François Ruffin, on l'aura en invité dans la deuxième partie de cette émission Backseat en visio. Il est actuellement dans sa circonscription à Amiens, François Ruffin. Est-ce qu'il s'est placé en leader de cette nouvelle union de la gauche en lançant le nom Front Populaire?
Il faut voir ce qu'il y a dans l'accord. Là, ce qui est en train apparemment de les derniers bruits, c'était que la formule retenue soit d'abord les élections, ensuite on regarde quel groupe a le plus de députés et il reviendra à ce groupe de proposer le nom de l'éventuel premier ou première ministre. Bon, apparemment c'est ça qui est inscrit et auquel cas François Ruffin a fait acte de candidature, mais au même titre que d'autres personnalités, Fabien Roussel, Jean-Luc Mélenchon, et on attend encore d'autres noms. Ce qui me semble clair, moi, je l'ai dit, hein, de toute façon, je l'ai dit très publiquement, c'est que le Front Populaire a besoin de rassurer derrière la bannière d'une personnalité qui ne soit pas clivante. Toute personnalité...
Pas Jean-Luc Mélenchon, donc.
Alors, toute personnalité est clivante par nature, mais il y a quand même quelques personnalités à gauche qui suscitent plus que du clivage, de la détestation, à tort ou à raison. Je rentre même pas là-dedans. Je fais un constat que certaines personnalités suscitent une détestation qu'une partie de la gauche sur laquelle une partie de la gauche ne réussira pas à passer. Il me semble que Jean-Luc Mélenchon effectivement en fait partie. François Ruffin, bon, j'ai l'impression que il coche pas mal de cases. Je l'ai dit, puisque c'est un homme de la France insoumise qui a été désigné comme héritier potentiel par Mélenchon lui-même, dont un sondage dont on ne sait pas trop ce qu'il vaut, mais un sondage tout de même donner la victoire possible au second tour d'une élection présidentielle, qui par ailleurs me semble être acceptable pour les écologistes, les communistes et les socialistes. Voilà, j'ai l'impression qu'il coche des cases. Mais comme je l'ai dit, si c'est pas lui, il y en a d'autres. Enfin, je veux dire, pourquoi pas un ou une syndicaliste, Sophie Binet, par exemple. J'en sais rien.
Laurent Berger.
Laurent Berger, je pense que précisément, il serait pas de nature à rassembler. Mais
Sophie, il est pas vivant.
Il est mou.
Mais il est pas.
Non, mais en fait,
le deuxième argument que tu peux rajouter, clivant et pas mou. Pas clivant et pas mou.
En fait, Laurent. Non, pas clivant et mou.
Laurent Berger,
il faut pas qu'il soit
tout, tout le monde l'oublie.
Laurent Berger, il est mou.
Mais Laurent Berger a signé au titre de la CFDT la réforme des retraites d'Emmanuel Macron en 2019.
Mais oui.
Je sais pas si une partie de la gauche lui pardonnera cela, nonobstant l'opposition vigoureuse qu'il a eue à la réforme des retraites en 2022. Voilà. Moi, je pense qu'il faut effectivement quelqu'un qui puisse rassembler, qui n'agonise pas toute une partie de la gauche. À titre personnel, j'aimerais bien qu'on connaisse le nom avant les élections. Je trouve que pour les électeurs et les électrices, devoir mettre un bulletin dans l'urne sans savoir qui serait le premier ou la première ministre potentielle, sachant que oui, il y a un programme, mais que la personnalité du leader ou de la leader compte quand même, je sais pas si c'est de nature à fonctionner, mais manifestement, c'est ça la formule qui a été retenue.
Sacha, je t'ai pas encore donné la parole. Qu'est-ce que t'en penses de cette union de la gauche qu'on a apprise ce soir? Est-ce que tu penses qu'elle peut remporter ces élections?
Ah oui, très clairement. Je pense qu'il y a des noms qui feront toujours peur à certains. On le verra, mais Quatennens, par exemple, ou même si Jean-Luc Mélenchon se présente à Marseille, on va voir ça. Ça fera certainement peur à certains, mais non, c'est une bonne chose que la gauche ait trouvé un accord. Moi, je trouve ça toujours un peu dommage qu'on... Alors après, c'est le jeu politique, on n'a pas le choix, mais qu'on soit dans la... D'abord, dans la tambouille politique, c'est-à-dire la négociation des circos, avant de montrer un projet commun politique. Je me dis, les gens détestent déjà tellement la politique et ce qu'elle représente, qu'elles ne voient à travers... Il y a pas que la gauche, hein, mais il y a le jeu des, enfin, on est dans la tambouille politique de l'extrême droite à la gauche. Donc, je pense pas que la politique aux yeux des gens en ressorte grandie pour le coup de toutes ces négociations qui sont compliquées partout a priori. Donc voilà. Et puis aussi, on va élire un ou une première ministre. Enfin, pour moi, l'élection, les législatives, c'est pas ça. C'est pas le nom d'un premier ministre ou d'une première ministre qui doit être un argument électoral, entre guillemets. C'est un projet de société, quoi.
Mais non, je vois ce que tu veux dire, je comprends ce que tu veux dire. Je précise que ces négociations entre les partis de gauche visaient à rééquilibrer ce qu'était la NUPES en tenant compte de la poussée de Raphaël Glucksmann aux élections législatives et en donnant davantage de circonscriptions au Parti Socialiste et moins de circonscriptions à la France Insoumise et en gros en rééquilibrant en fonction des forces.
Et moins aux Verts aussi, je crois. Hein.
Pardon ?
Ils en ont perdu.
Et moins aux écolos, ils en ont perdu également. Antoine.
Mais je suis complètement d'accord avec Sacha sur le point que la problématique majeure de ces élections, c'est qu'on va absolument pas parler du fond. On va juste parler des interactions stratégiques entre les différents partis, soit pour créer des accords, soit parce que l'enjeu principal, ça va être le Rassemblement national. Et finalement, les idées, le programme, ça va vraiment être le grand absent de ces législatives.
Tu penses ?
Et c'est quand même la problématique... Oui. Et c'est quand même, le fait que normalement tu as entre 20 et 40 jours pour pouvoir, le moment de la dissolution et le moment où les élections ont lieu. Et là, on a vraiment les 20 jours, c'est le délai le plus court. Donc c'est le délai où il n'y aura pas vraiment de campagne qui pourra se lancer. Et à peine les listes vont déjà être faites, que faudra déjà choisir pour qui aller voter et pour se mobiliser.
Ouais, mais les listes, elles doivent être rendues le 16 juin. Donc il y a quand c'est même deux semaines de campagne.
On a jusqu'à dimanche.
Deux semaines de campagne pour quelque chose qui va déterminer de manière aussi fondamentale et peut-être pour l'élection la plus importante de ces 40 dernières années.
C'est clair, c'est très court, mais je pense pas qu'ils vont passer les deux semaines. À partir du moment où les listes seront déposées, ils vont quand même parler du fond, j'espère.
Je pense que les médias vont juste s'intéresser à « oui, mais attendez, est-ce que Mélenchon, il va pas être Premier ministre et que dit l'autre qui a pas dit exactement la même chose ?» Et à Renaissance, alors, on va encore avoir la saga avec Ciotti et tous les Républicains pendant je sais pas combien de temps de qui est le mieux enfermé dans son bureau. Enfin, ça va juste être ça pendant toute la durée de la campagne.
Puis ça va être des affrontements de personnalités, juste être des affrontements de personnalités, en fait.
Est-ce que l'argumentaire déployé par Emmanuel Macron, qui parle d'une union indécente en reprochant aux socialistes, aux sociodémocrates de s'allier à ce qu'il appelle l'extrême-gauche pour parler de la France insoumise, est-ce que cet argumentaire-là peut fonctionner auprès des électeurs sociodémocrates de centre-gauche, etc.
Ça n'a pas marché en 2022, il n'y a aucune raison pour que ça marche maintenant.
En fait, ça a plus marché que ça. Hein. Parce que quand tu regardes finalement les duels du second tour des législatives de 2022, il y a eu 58 duels entre la NUPES et le Rassemblement National. La NUPES en a gagné 43% de ces duels. Mais quand c'était LFI contre le RN, c'était seulement 36% de victoire, alors que quand c'était PS...
Parle bien dans son micro. RN,
pardon, ouais, j'ai toujours ce problème. Quand c'était LFI contre le RN, le LFI gagnait, on a gagné 36% des duels, alors que quand c'était PS contre RN, le PS, on a gagné 73%. Donc je pense que tu as quand même cette problématique-là à l'heure actuelle, que la diabolisation qui a été réalisée sur la France insoumise porte dans l'électorat. Et si tu te retrouves dans des duels de second tour entre LFI et le Rassemblement National, je ne suis pas forcément certain que des électeurs de centre-gauche aillent de manière évidente voter pour la France Insoumise.
Après, intéressant.
Est-ce que vous avez suivi la conf de presse de Macron lundi? Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à la fin, il y a une journaliste du Nouvel Obs qui pose la question à Macron. Est-ce que, à force de mettre l'extrême gauche et l'extrême droite sur le même plan, vous finissez, enfin, c'est quoi votre bataille contre l'extrême droite en faisant ça? Et là, il s'est énervé, en fait. Il s'est énervé comme à chaque fois qu'on lui pose des questions sur sa lutte contre l'extrême droite. Je me souviens, Emilio nous racontait pour l'interview à l'Humanité que pareil, il s'était énervé quand on lui demandait ce qu'il faisait contre l'extrême droite. Et enfin, je sais pas comment vous l'analysez, vous, cet énervement à chaque fois que le sujet est mis sur la table, mais enfin voilà, je sais plus ce que je voulais dire.
Non, mais oui, ça veut dire qu'il y a un truc, il y a un loup, quoi.
Malek,
je précise que là il y a un accord entre les partis, mais que chaque parti doit valider devant son instance. Ça devrait passer chez tout le monde, sauf au PS où ça va être un peu musclé. Ça,
ah, tu penses ?
Ça peut passer, mais je vous le dis, ça va
François
être un
Hollande
peu musclé.
François Hollande est invité du 20h ce soir.
Oui. Ouais. Non, juste ce que je voulais dire, c'est que... ouais, putain, ça,
tu m'as... je mets
t'es déstabilisé, là. Hein. Tu sais plus quoi dire. Hein.
Je sais plus quoi dire. Non, si. Emmanuel Macron, là, en gros, il compte un peu sur les électeurs de gauche, mais un peu comme en 2022, là, tu vois. Oui, il faut pas aller voter LFI, on vampirise encore LFI, on compte sur les électeurs sociaux-démocrates. Et un peu comme en 2022, d'ailleurs sur la conférence de presse, il nous a dit exactement ce qu'il avait dit en 2022, ouais. Je vais gouverner autrement, il nous l'a déjà fait à Marseille, à l'entre-deux tours de 2022. Et au final, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a niqué avec la réforme des retraites. Il y a eu l'inflation et les gens, on les a laissés dans la merde, on les a laissés encore crever la dalle alors qu'ils travaillent. Bref, donc ça, c'est passé, j'ai envie de dire, c'est passé. Et encore, c'est passé parce qu'il y avait Le Pen en face, c'est passé une fois, mais ça repassera pas cette fois-ci. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que, évidemment qu'il amène plus la guerre contre l'extrême droite. Je vous rappelle qu'il y a encore quelques mois, ce matin, il y avait Gabriel Attal sur France Inter qui me disait, oui, mais moi j'ai milité au Parti socialiste. Le Parti socialiste d'aujourd'hui, c'est plus le Parti socialiste d'antan. Mon pote, il y a quelques mois, tu nous as tenu exactement le même discours que le Front National sur la baïa et sur l'islam. C'est donc, clair. S'il te plaît, pas de leçons.
Scénario. Emmanuel Macron dissout parce qu'il souhaite que le Rassemblement National arrive au pouvoir pour qu'on se rende compte qu'ils sont nuls et qu'on revote pour les macronistes en 2027. C'est un truc que j'ai beaucoup lu sur Internet.
Ouais, beaucoup de gens l'ont dit. Moi, je l'ai dit aussi.
Ah ouais, tu penses?
Mais je crois pas, en fait.
Ah, d'accord.
Je crois pas.
Je crois pas ce que je dis.
Non, mais
c'est l'ère de la post-vérité.
c'est l'hypothèse à laquelle on a toutes et tous pensé dimanche soir. Mais en fait, quand tu y réfléchis un petit peu, déjà, d'une part, Emmanuel Macron, je pense, désire une chose, espère une chose, c'est ne pas rester comme le président qui aura permis l'accession au pouvoir de Marine Le Pen, d'ailleurs, enfin du Rassemblement National, d'ailleurs, de l'extrême droite. D'ailleurs, quand la question lui est posée dans sa conférence de presse, il nous fait justement un magnifique truc de post-vérité en disant « Je ne veux pas être le président qui amène l'extrême droite au pouvoir, mais attendez, le Matignon, c'est pas le pouvoir, c'est Matignon ». Et il nous a fait quelque chose comme ça, et t'es là, tu hausses les deux sourcils et tu comprends pas exactement. Bon, donc je pense que d'autant
que... Il a jamais lu la Constitution, ce mec.
Non mais, complètement fou. Non mais d'autant que, en plus, si Emmanuel Macron permettait l'accession d'un Jordan Bardella à la tête de Matignon, est-ce qu'il pourrait rester président? Évidemment, aujourd'hui, ils nous disent, bien sûr, il démissionnera pas.
C'était ma question.
Il a été élu pour 5 ans. Bon, on sait pas. Tout est possible. Enfin, souvenez-vous de la première cohabitation en 1986. Tout le monde imagine que François Mitterrand va démissionner. Parce que c'est ainsi que fonctionne l'esprit des institutions. Bon. Et François Mitterrand dit, contre toute attente, non, je reste, pas de problème, je vais prendre des vacances, m'occuper un peu de la politique étrangère, et voilà. Sauf que là, c'est quand même Jordan Bardella. Est-ce qu'Emmanuel Macron va assumer de rester président d'un pays où Jordan Bardella lui rend compte de ce qui se passe à l'Assemblée nationale? Ça me paraît compliqué. J'ajoute un élément connexe, mais qui n'a pas été évoqué encore, et qui pour moi est capital. Le fait qu'Emmanuel Macron ait donné le temps le plus court pour que ces élections se tiennent.
21 jours.
Le temps le plus court, 20 jours entre le moment où il prononce et bon, ce qui nous amène au 30 juin, 7 juillet. Alors pourquoi ? Ça s'explique stratégiquement par le fait que ça ne laissait pas, l'espérait-il, le temps à la gauche de s'organiser en une union. Donc c'était ça son calcul. Mais il faut quand même voir ce qu'il y a derrière. D'une part, on va avoir des élections au début de l'été quand sans doute beaucoup d'électeurs ne pourront pas aller voter parce qu'ils n'auront pas fait les démarches pour faire une procuration, etc. Bon, il me semble que quand tu fais une élection nationale, a fortiori de cette importance, tu devrais avoir envie quand même que le plus de gens y participent.
Bien
et
sûr.
Puis tout de même, j'ajoute, nombre sont ceux qui vont me dire on s'en fiche. Mais non, vous vous trompez les amis, on ne s'en fiche pas. Il y a les Jeux Olympiques 2 semaines plus tard. Alors, il faut quand même imaginer l'hypothèse où, hypothèse de loin la plus probable, aujourd'hui, ce soir, depuis l'Union de la Gauche, où ce ne soit pas le macronisme qui soit reconduit à la tête de Matignon. Donc, il va falloir nommer un nouveau gouvernement. À 2 semaines des Jeux Olympiques, vous allez avoir un nouveau ministre des Sports. Vous allez avoir un ou une nouveau ou nouvelle ministre de l'Intérieur. À 2 semaines des Jeux Olympiques, au moment où le risque terroriste n'aura jamais été aussi élevé en France, où il y a des millions de touristes et spectateurs, spectatrices qui sont présents à Paris. Vous allez avoir un ministre de l'Intérieur qui va débarquer. Il va découvrir ça. Alors les gars, où est le plan de sécurisation ? C'est quoi ? Qu'est-ce que... Vous imaginez l'irresponsabilité du calcul juste pour espérer que la gauche n'ait pas le temps de s'unir. C'est ça qui me semble complètement
fou. Après, il a été dit que ça ne changerait pas grand-chose pour le coup. Hein, vu que tout est déjà organisé, tout est déjà acté. Ce n'est pas un ministre de l'Intérieur ou un ministre des Sports qui va changer grand-chose.
Sauf qu'il se passe n'importe quoi. Il se passe n'importe quoi. N'importe quoi. C'est bien le ministre qui prend les décisions. Ce n'est pas son administration.
Alors, soit,
je suis d'accord avec vous. Il y a un plan, il y a une autre fonction publique.
Effectivement, je vois ce que tu veux dire.
Un ministre
débute... C'est lunaire.
Non, les services de sécurité ont en revanche soulevé le problème que si à la suite de l'élection, à la suite de la nomination pardon de quelqu'un de l'extrême droite, qu'il y ait des soulèvements ou des manifestations en France, en termes de en termes de gestion et des manifestations et de l'événement et des jeux, là ça va être impossible à gérer. Mais la ministre des Sports en soi, que ce soit Amélie ou Dea Castera ou quelqu'un d'autre, ça n'aura aucune influence sur les Jeux Olympiques.
Léa,
j'avais une autre hypothèse encore.
Alors c'est quoi ?
Oula !
Alors vas-y.
Allez, on y va. C'est que, et c'est la première hypothèse qui m'est venue à l'esprit, c'est que finalement, est-ce que Macron, il serait pas plus confortable pour lui de gouverner avec l'extrême droite ? Parce que finalement, il y a quand même pas mal de projets de loi qu'il a apportés qui ont été plutôt à la faveur de l'extrême droite. Je veux dire, à partir du moment où on deal le principe même de la préférence nationale dans un texte qui est porté par le gouvernement, on y est. On est sur les idées d'extrême droite.
Ouais, je sais pas.
Il y a un certain nombre de réformes qui ne choquent pas l'extrême droite, notamment sur le plan social ou encore sur le plan économique. Moi, j'arrive à me poser la question, très sincèrement. Est-ce que finalement, c'est pas plus simple pour lui de gouverner avec une Assemblée nationale d'extrême droite qu'une Assemblée nationale avec une majorité relative où il est obligé... Pardon ?
C'est sûr qu'ils seront dociles.
Non, mais c'est ça. Et donc, est-ce que lui, finalement, dans son projet politique et idéologique, c'est pas plus simple ? Vraie question. Enfin, je pose ça là.
En fait, il gouvernera pas, parce que s'il y a une cohabitation, c'est le Premier ministre qui prend les décisions pour l'intérieur, et surtout...
Mais des décisions qui pourraient lui aller, tu vois.
Mais indépendamment de la politique, en termes rhétoriques, en termes discursifs, Emmanuel Macron a construit son identité contre l'extrême droite. Ce qui est, je suis d'accord... une opposition largement rhétorique. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on voit la loi immigration qu'ils ont fait voter, c'est une loi que n'a pas renié le Rassemblement national qui l'a votée en disant « nous, on aurait préféré aller plus loin, mais cette loi-là nous va bien ». Mais Emmanuel Macron a construit son opposition jusqu'à dire, contre toute réalité, là encore, on est en pleine post-vérité, jusqu'à dire « cette loi n'acte pas le principe de la préférence nationale ». Quand le Rassemblement national lui-même disait bah, « si, la préférence nationale, on sait ce que c'est ce qu'il y a dans la loi ». Donc je crois qu'en termes de discours pur, Emmanuel Macron ne pourra pas assumer de gouverner avec ceux qu'il désigne constamment, continuellement depuis 2017 comme ses principaux adversaires.
Oui, mais entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, tu vois, je pense que déjà il y a une grande distance, il y a un énorme gap. Moi, j'arrive à me demander si finalement, en laissant un peu les choses se faire, ça irait pas presque dans son sens sur le projet idéologique et politique qu'il cherche à porter pour la France.
En tout cas, je vous rappelle que nous recevrons dans la deuxième partie de cette émission, après la pause, François Ruffin, le peut-être futur Premier ministre, s'il a front. J'en sais rien.
C'est sûr, on se marre, mais...
Ah, mais ça se trouve. Hein. François Ruffin, donc, il sera avec nous à distance depuis sa circonscription d'Amiens. Autre élément qui s'est déroulé ces derniers jours, l'implosion d'un parti politique historique, Les Républicains. Les Républicains, ça, c'est un parti qui peut faire prêter à sourire vu ces dernières années, mais qui est quand même l'héritier d'un immense camp politique dans ce pays, qui sont les gaullistes, la droite républicaine, la droite conservatrice classique. C'est quand même un parti politique qui a donné plusieurs présidents de la République au pays, qui a donné plusieurs premiers ministres au pays, qui a été plusieurs fois dans l'opposition aussi. Et ce parti s'est effondré lorsque, lundi soir, à la surprise générale, c'était mardi midi, pardon, Éric Ciotti, son président, a annoncé sa volonté de proposer un accord électoral avec le Rassemblement National pour les élections législatives. Cette proposition faite, l'écrasante majorité des ténors de ce parti, les Républicains, ont fait savoir de manière extrêmement bruyante leur désapprobation du plan d'accord avec le Rassemblement National, ce qui a donné lieu à un espèce de vaudeville et de psychodrame absolument lunaire chez les Républicains, puisque un conseil politique s'est réuni pour voter l'exclusion du parti du président Éric Ciotti. Éric Ciotti qui a contesté en disant que ce bureau politique n'avait pas de base légale pour se réunir. Le bureau politique s'est réuni le lendemain pour reconfirmer sa décision, c'était aujourd'hui. Et pendant ce temps-là, Éric Ciotti continue à dire non, tout va bien, je suis bien le président du parti. Et il a déjeuné ce midi avec Jordan Bardella pour sceller cet accord. Putain, c'est quand même dingue ce qui s'est passé chez les Républicains.
Est-ce que Adèle aurait pu l'écrire ?
Non. Même dans
je pense que ça dépasse notre imagination.
Les amis, je vous coupe parce que c'est lunaire. François Hollande apparemment apporte son soutien au nouveau Front Populaire sur TF1.
François Hollande apporte son soutien au Front Populaire. En même temps...
Pourquoi lunaire, en vrai
les socialistes ont renforcé.
Je vous le dis avec des frissons, j'y crois.
On est tranquille. Boulevard.
Il y aura plus de socialistes dans le Front Populaire que ce qu'il y en avait dans la NUPES. Donc les socialistes, ils sont contents.
Mais Cazeneuve, je sens que Cazeneuve, il va nous faire une petite sortie demain en disant c'est inadmissible.
Ouais, mais bon, Cazeneuve, on sait ce que ça vaut. Allez.
J'espère, en tout cas, parce que sinon on va s'ennuyer.
Bon, donc c'est bon, donc finalement on peut fréquenter l'extrême gauche. C'est pas si infréquentable que ça. Ma question, on était en train de parler des Républicains, parce que Hollande, bon d'accord, mais les Républicains, c'est quand même très particulier ce qui s'est passé. Quelle analyse est-ce que vous en avez ?
Moi, j'aurais une petite pensée pour Émilien Warvial, parce qu'il est quand même en train de terminer sa thèse justement sur les Républicains. Le dernier chapitre qui lui restait à écrire, c'était justement pour expliquer pourquoi les Républicains, d'un point de vue idéologique, s'étaient rapprochés du RN, mais n'avaient jamais franchi le Rubicon et s'allient avec le RN.
Émilien, on t'embrasse extrêmement fort alors qu'il est.
Donc c'était le... Mais oui, en effet, je pense qu'il y a quand même énormément d'opportunistes de la part d'Éric Ciotti. On parle d'idéologie, etc. Mais certes, d'un point de vue idéologique, il y avait eu un rapprochement énorme entre la position des Républicains et la position du Rassemblement National.
C'est vrai.
Mais là, ce que fait Ciotti, c'est juste qu'il veut garder ses petits avantages personnels.
Alors, on parle de la circonscription des Alpes-Maritimes dans la ville de Nice, Éric Ciotti, où le Rassemblement National a fait un score phénoménal. Et donc, il se rend bien compte, Éric Ciotti, qui ne va pas durer très longtemps. Si le RN met face à lui un mec du RN, c'est lui qui sera élu député. Ce ne sera pas Éric Ciotti. Éric Ciotti, qui en plus ambitionne d'être maire de Nice en 2026.
Mais pour aller plus loin dans l'opportunisme politique, Nice Matin a publié un article il y a un ou deux jours qui disait que Éric Ciotti avait été quémandé un ministère auprès de la Macronie un peu avant le résultat des européennes. Donc
on dirait un jeu de rôle de
fibre optique.
Imaginez le jeu de rôle. Donc il y a dimanche soir, il y a le score de Bellamy. Ok. Ouais. Il discute avec Larcher, avec tout son bureau politique, avec ses copains. Bon, les gars, faut qu'on essaie de trouver une solution. Faut réveiller un peu les LR. OK. De l'autre côté, il a ses petites relations avec les gars de la Macronie. On a donc cette info qui dit qu'il serait allé voir son papa Vincent Bolloré.
Ouais, apparemment, ouais, c'est ouf.
Eva qui nous annonce derrière le dos de tout le monde qu'il veut faire un accord avec les fachos. Il est fou, ce jeu. Il est zinzin.
Mais là où il y a énormément d'opportunités, je pense, c'est que je ne voyais jamais Ciotti prendre une décision contre Wauquiez. Parce que Wauquiez, c'est quand même la ligne la plus à droite au sein des Républicains.
D'autant que je rappelle qu'ils étaient liés par un pacte, tous les deux. Éric Ciotti est arrivé à la présidence des Républicains en promettant que le candidat en 2027, ce serait Laurent Wauquiez.
Complètement. Et que là, Laurent Wauquiez soit opposé à l'alliance avec le RN et que Ciotti décide de la faire quand même, ça, c'était un peu le point qui m'a le plus étonné.
qui il a encore avec lui, Éric Ciotti? Parce que c'est aussi, on a quand même vu le défilé. L'ensemble des sénateurs, Gérard Larcher, Valérie Pécresse, le président de la région du Nord, Xavier Bertrand. Je peux faire la liste encore longtemps. Quoi. Ils sont très très nombreux, les caciques du parti. Éric Ciotti, on a l'impression qu'il a, je crois, une députée avec lui, qui est une de ses copines. Et
Oui, voilà, c'est ça. Ouais.
Et puis c'est tout.
Mais ça amène la question de quelle importance, au fond, mis à part le plaisir de l'histoire, il s'est enfermé, etc. Mais quelle importance de toute cette affaire? C'est-à-dire que si, in fine, cela n'est que le débauchage par le RN d'Éric Ciotti... Oui, bon, bah, ils ont déjà débauché Mariani avant, maintenant ils débauchent Ciotti. La compatibilité idéologique, de toute façon, était très forte. Si les Républicains restent les Républicains sans Ciotti, j'ai envie de dire, tout ça, c'est vraiment une tempête dans un petit verre d'eau. Cela étant, la vraie question pour les Républicains, le vrai moment de clarification est devant nous. C'est-à-dire que, indépendamment de tout ce psychodrame, les Républicains sont tous sauf sortis d'affaires. Ils vont avoir devant eux, lors de ces législatives, un Rassemblement national impérial qui s'impose à droite comme désormais la force politique principale avec laquelle il faut composer et qui a quand même gagné un petit gage de respectabilité avec le ralliement de Ciotti. Ils ont à leur gauche, si on peut s'exprimer ainsi, le bloc Renaissance qui est en train de jouer son va-tout et dont on peut imaginer que la campagne va être elle aussi féroce. Comment les députés RN, y compris actuels, vont-ils sauver leur siège? C'est-à-dire que là, il y a une tenaille qui devrait les pousser à la clarification, une clarification idéologique qui devrait être claire. C'est-à-dire une partie des LR ont de toute façon, alors pas sur l'économie, mais sur les enjeux dits régaliens, des positions qui sont très proches du Rassemblement national, les ralliements pourraient être naturels. Une partie des LR ont des positions qui, sur tous les sujets, sont très proches des macronistes, les ralliements pourraient être naturels. D'ailleurs, c'est pas pour rien si aujourd'hui l'essentiel des ministres d'Emmanuel Macron viennent directement des rangs des Républicains. La clarification des LR, elle est attendue depuis longtemps. En réalité, le parti pourrait très bien se scinder en deux et les débats seraient plus clairs. Le pari que eux font, c'est que la Macronie est un navire qui part déjà à la dérive, qui est déjà en train de couler, et qu'en 2027, ils tireront les dividendes de la fin du macronisme. Donc le pari des Républicains depuis le début, c'est de s'agripper à leur petit siège, d'essayer de tenir sur leur radeau jusque 2027 en se disant « ce sera notre moment ». Il est possible, mais ça, nous verrons ça les 30 juin et 7 juillet prochains, il est possible que cette stratégie ne résiste pas devant le principe de réalité qui est que comment vont-ils s'en sortir là, dans 3 semaines? La question est posée.
Il y a autre chose aussi qui commence à être assez intéressant à voir bouger au sein du bloc Renaissance, justement, c'est que ce bloc commence à se fissurer. Et notamment avec l'annonce d'Édouard Philippe qui dit qu'il faut que ses députés candidatent sous la bannière Horizon et non pas de la majorité présidentielle.
Alors c'est vrai qu'il faut noter qu'aucun candidat de la majorité ne mettra la tronche d'Emmanuel Macron sur ses affiches et sur ses tracts. Ça, c'est vu et revu. Ça va plus loin. Il propose même de prendre l'étiquette Horizon.
Absolument, ouais, de prendre l'étiquette Horizon. Donc ça, moi, je ne serais pas surprise que ça... Que ça fasse un petit appel d'air. J'imagine bien un Bérou faire quelque chose de similaire. Je veux dire, à partir du moment où, de toute façon, rien n'est garanti pour Renaissance à l'heure actuelle. Rien n'est garanti.
Malek.
Édouard Philippe était le seul patron de parti dans la coalition présidentielle qui n'était pas présent à la conférence de presse d'Emmanuel Macron.
Oui, c'est vrai.
Il a même d'ailleurs dit à des journalistes que lui, il était contre le fait que le président mène campagne, que ça affaiblissait la
fonction présidentielle. Il a fait partie des rares à le dire à haute voix.
Et il l'a dit à haute voix. Oui, et il est allé au bout de sa logique en ne se présentant pas à la conférence de presse de mardi matin.
Mais de toute façon, Renaissance, il faut se souvenir que Renaissance, à la base, c'est En Marche. Et En Marche, c'est les initiales d'Emmanuel Macron. C'est l'archétype du parti personnel, le En Marche puis Renaissance. Et Macron ne peut pas se représenter en 2027. Donc de toute manière, tu as une recomposition qui s'annonce et qui est obligatoire au sein de cet espace-là. Et si pendant un temps, c'était porteur de mettre la tête de Macron et sur son affiche de campagne et se positionner derrière lui... Vu qu'il y a ces niveaux de détestation à l'heure actuelle, c'est beaucoup plus opportun de s'en différencier et de jouer sa petite musique. Enfin, sa petite musique, c'est sa petite partition personnelle.
Excuse-moi, Jean, juste pour revenir sur LR, je pense que si, un peu pour suivre Clément, je pense que si Macron a bien réussi un truc, c'est de dire on a levé le masque sur les valeurs avec sa décision.
Les masques tombent,
Et Et moi, je vois pas de chute de survie, en fait, aux Républicains après ce qui vient de se passer. C'est-à-dire que pour moi, c'est effectivement soit... Il y a une partie, d'ailleurs, Bellamy l'a s'est bien montré aujourd'hui en disant bien sûr que je voterai Rassemblement National s'il venait à avoir un second tour avec le nouveau Front Populaire. Donc il va y avoir effectivement une partie des Républicains qui vont se rattacher de facto au Rassemblement National. Et l'autre, pour survivre, va aussi être obligé de peut-être de négocier des circos avec Renaissance / Horizon / le MoDem. Enfin, pour moi, Ciotti a tout seul signé l'acte de mort des Républicains.
Là, on a
fait
trois jours.
Plus Macron.
Ils ont trois jours concrètement pour les négos, quoi.
D'autant que quand même, pour ajouter un dernier élément, il y a l'affaire judiciaire aux Républicains. C'est-à-dire que Éric Ciotti a déposé en référé une contestation de l'acte de destitution en disant « Le bureau des Républicains doit être réuni sous demande du président. Or, je n'ai pas demandé de réunion. Donc, la réunion qui a eu lieu, c'est une réunion de personnalités qui ont choisi de passer un moment ensemble, mais qui n'ont aucune autorité à prendre une décision pour les Républicains. » On pourrait voir quelque chose qui serait alors hilarant, c'est que le tribunal lui donne raison en se fondant simplement sur le point de droit, c'est-à-dire les statuts des Républicains, et disent, effectivement, il est encore président. Il est donc, puisqu'il avait démis la présidente de la Commission nationale d'investiture, il est donc en position de nommer le prochain ou la prochaine président ou présidente de la Commission nationale d'investiture, et donc de faire les nominations tout seul, ce qui permettrait à Éric Ciotti, tout seul, enfermé dans son bureau, pour le coup, de couler les Républicains en les faisant absorber par le RN. Alors, ça, ce serait savoureux.
En tout cas,
ce serait savoureux.
On verra où tout ça nous mène. En tout cas, chers amis, je vous rappelle que dans la deuxième partie de cette émission, après la pause, nous allons recevoir François Ruffin, qui sera en visio avec nous depuis sa circonscription à Amiens. François Ruffin, potentiel futur Premier ministre si d'aventure le Front Populaire venait à remporter les élections législatives du 30 juin et du 7 juillet. Ces élections législatives sont un véritable événement politique. Nous souhaitons, nous, à Backseat, vous proposer de nouvelles émissions Backseat supplémentaires en plus de celles qu'on avait prévues pour toute la saison. Pour nous permettre de commenter les résultats de cette élection, de ces élections législatives. Rendez-vous sur KissKissBankBank. On a besoin de votre argent pour ça. Chaque émission Backseat coûte 15 000 euros à produire. C'est grâce à vos dons, c'est grâce à la solidarité de tous et à votre mobilisation qu'on pourra vous proposer, je l'espère, des émissions à la fin du mois de juin et au début du mois de juillet prochain. C'est parti pour la pause, les amis. On se retrouve juste après la pause. À toutes.